Vous écoutez
RMC. RMC, Apolline Matin.
C'est l'heure du journal de Thibaut Texer. Bonjour Thibaut.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. 15 morts, plus de 40 blessés. Bilan de cet attentat terroriste et antisémite hier sur une plage prisée de Sydney en Australie. Un Français figure parmi les victimes originaires du Bourgeux en banlieue parisienne. Ses proches sont sous le choc. La ministre de l'Agriculture attendue dans le sud-ouest où les blocages se poursuivent ce matin contre la gestion du gouvernement dans la crise de la dermatose nodulaire. Et Mason Greenwood, sauveur d'un OM à la peine hier soir en Ligue 1, tombeur 1-0 de Monaco.
Les mois très vifs au lendemain de cette fusillade qui a fait donc 15 morts en Australie.
Et parmi eux, un Français, Dan El-Kayam, 27 ans, installé à Sydney depuis un an. Cet ingénieur de confession juive était originaire du Bourget, en Seine-Saint-Denis. Un homme à mille que ses proches décrivent comme un passionné.
Des milliers de kilomètres les séparaient ces dernières années, mais Michael, ami d'enfance de Dan, suivait de près ses aventures en Asie, en Australie, lorsqu'il a appris son décès.
Moi, pour moi, j'étais persuadé que c'était pas vrai. Je me disais, c'est pas possible, ça peut pas lui arriver à lui.
Il relit en boucle les messages de Dan, des plus récents, il y a quelques semaines, aux plus anciens. De nombreux souvenirs heureux refont surface.
Toutes les fois où il est venu chez moi, toutes les fois où je l'ai appelé, on s'est changé des tenues de foot, il m'avait prêté ses crampons.
Au centre de leur amitié, la passion du foot qu'ils partageaient dans le club du Bourget, commune de Seine-Saint-Denis, dont ils sont tous les deux originaires.
Moi, surtout qu'à une époque, j'étais gardien de but, ils me charriaient, quoi. Ah, là, je t'en ai mis un pied droit, bah, je vais t'en mettre un pied gauche. Allez, réveille-toi. Ils savaient autant rigoler sur lui que sur les autres. Moi, c'est ça vraiment qui m'a marqué avec lui.
C'était un pilier de l'équipe, souligne son coach Eric. Dan, il l'a connu en 2019. Il avait à peine 20 ans.
C'était déjà un joueur d'une classe incroyable, brillant sur le terrain et toujours respectueux avec ses partenaires. Toujours aussi très ambitieux. Il aimait gagner. Il a été indispensable.
Une disparition brutale.
C'est un vrai drame, il va terriblement nous manquer.
Le club prévoit de lui rendre prochainement hommage.
Et donc 15 morts et une quarantaine de blessés, c'est le bilan de cet attentat qualifié de terroriste et d'antisémite par les autorités locales. C'est la communauté juive qui était visée, rassemblée pour la fête de Hanouka sur cette plage prisée de Sydney. Et ce matin, l'enquête avance, on en sait plus, Rachel Sadodine, sur le profil des deux assaillants, deux hommes, un père et son fils.
Âgé de 50 ans, le père a été abattu par les policiers lors de son interpellation. Blessé, le fils de 24 ans est lui actuellement hospitalisé dans un état critique, placé sous surveillance policière. Selon la chaîne australienne ABC, il avait fait l'objet d'une enquête de renseignement australien en 2019, soupçonné d'être étroitement lié à un membre du groupe État islamique. Toujours d'après la télévision publique, père et fils avaient prêté allégeance à l'organisation djihadiste. Des drapeaux de l'État islamique ont été retrouvés dans leur voiture avec aussi deux bombes artisanales. Ces informations ne sont pour le moment pas confirmées par la police australienne. Elle indique cependant que l'attaque a été commise avec les fusils personnels du père, détenteur d'une licence d'armes depuis 10 ans.
Un drapeau en berne, journée de deuil national ce lundi en Australie. Et dans ce contexte, la France annonce, le ministre de l'Intérieur demande au préfet de relever le niveau de vigilance et de sécurité autour des lieux de culte.
Autour des lieux de culte juifs, mais aussi à l'approche des fêtes de Noël chrétiennes. L'antisémitisme partout, les juifs visés jusqu'à l'autre bout de la planète. Comment est-ce que vous vivez cet épisode, ce dernier épisode d'antisémitisme et de terrorisme? Vous nous appelez au 32-16.
Il est 7h04, vous écoutez RMC. La ministre de l'Agriculture attendue ce matin dans le sud-ouest, Annie Genevard, doit rappeler sa volonté d'étendre la vaccination des troupeaux de bovins. Seule solution, dit-elle, permettant de lutter contre la propagation de l'épidémie de dermatose nodulaire, attendu de pied ferme par des agriculteurs toujours mobilisés ce matin sur différents axes dans le sud-ouest. C'est notamment le cas à Carbonne sur l'A64 au sud de Toulouse. Sur place en direct ce matin, notre envoyé spécial Cassandre Aubreau au cœur de la mobilisation. Cassandre.
Oui, les agriculteurs sur ce blocage sont en train de se réveiller ici. Ils viennent juste d'allumer les spots. On aperçoit les premières tasses de café fumant. Ce matin, il y a de nouveaux chauffages extérieurs à gaz, de quoi faire brûler du bois dans des fûts en métal. Signe que le blocage est bien parti pour durer ici à Carbonne. Des klaxons d'automobilistes se font entendre au loin. Leur façon d'apporter leur soutien à ces agriculteurs qui ont peu d'espoir que la visite de la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, aujourd'hui débouche sur de nouvelles annonces. Les syndicats comme la Coordination Rurale et la Confédération Paysanne protestent contre le principe de l'abattage systématique des troupeaux. Ils réclament l'abattage des animaux malades seulement et une large vaccination des 16 millions de bovins français contre la dermatose nodulaire.
Cassandre Brou en direct de Carbone pour RMC. Notez que la France a demandé à l'Europe de reporter la signature de l'accord avec les pays du Mercosur prévu cette semaine.
RMC 7h05, le marathon du budget se poursuit.
C'est aujourd'hui que le Sénat doit voter le projet de loi finances avant un retour du texte à l'Assemblée nationale dans la semaine et toujours dans la perspective d'un vote avant le 31 décembre. Si le gouvernement se dit convaincu d'obtenir un budget pour 2026, beaucoup en doute. Les tensions demeurent. Et ce matin, dans les colonnes du Parisien, Elisabeth Borne plaide un passage en force. Habitué de la manœuvre, à 23 reprises, l'ex-première ministre appelle Sébastien Lecornu à faire machine arrière. Cyprien Pézeril a utilisé le 49-3.
Pour la première fois, une macroniste de premier plan rejoint François Hollande, Bruno Retailleau, Gérard Larcher et appelle au 49-3 pour adopter le budget. Le gouvernement peut engager sa responsabilité, suggère Elisabeth Borne, qui y voit une façon moins engageante pour les oppositions de permettre l'adoption, ce qui évite ainsi aux partis comme le PS d'apporter formellement leur soutien. Appeler au 49-3, c'est dire tout haut ce que beaucoup pensent tout bas, reconnaît un chef socialiste. Ces dernières heures, Olivier Faure laissait même entendre que la censure ne serait pas automatique si un accord en amont d'un 49-3 a été trouvé, mais le gouvernement jure que sa position est inchangée, pas de passage en force, du moins pour l'instant. En octobre, Elisabeth Borne était la première de son camp à appeler à la suspension de la réforme des retraites, option finalement retenue par Sébastien Lecornu.
Les portes du Louvre vont-elles rester fermées ce matin? C'est à 9h que les salariés du musée doivent se réunir pour se prononcer sur l'appel à la grève reconductible lancée par les syndicats contre les conditions de travail dégradées et la détérioration des conditions d'accueil du public. Notez également le retour de l'extrême droite au Chili plus de 20 ans après la chute du régime de Pinochet. José Antonio Caste a été élu président de la République avec plus de 58% des suffrages.
RMC 7h07, Lens passera les fêtes au chaud en tête de la Ligue 1.
Tombeur de Nice, 2-0. Les Sang et Or ont deux points d'avance sur le PSG ce matin, suivi par Marseille qui a arraché sa victoire hier soir face à Monaco. 1-0 en clôture de la 16e journée. Marseille sauve sa place sur le podium grâce à un but de Greenwood au terme d'un match. Encore une fois, brouillon, Florent Germain.
Oui, l'OM a souffert mais n'a rien lâché. Comme à Bruxelles mardi dernier en Ligue des Champions, deux buts refusés à son adversaire pour hors-jeu, des parades en pagaille du gardien Geronimo Rulli et un Mason Greenwood en sauveur pour arracher la victoire au grand soulagement des supporters marseillais.
On finit l'année en beauté sur une victoire. Donc voilà, encore une fois, merci à Greenwood, merci Rulli. Deux hommes de la première partie de saison.
C'était assez mitigé quand même. On a eu un match plutôt compliqué. Après, c'est pas le meilleur qu'on ait fait, c'est pas le pire.
Disons que bon, on aurait bien aimé mettre un peu le feu avec un match du niveau que l'on attend de cette équipe-là. Voilà. Après, bon, c'est sûr, on est heureux, on a gagné, c'est Monaco.
L'OM reste donc sur le podium de Ligue 1. Roberto De Zerbi, l'entraîneur, peut faire le bilan de la mi-décembre sereinement.
Avant de penser à Noël, la question sera de savoir si je suis vraiment satisfait. Cette victoire contre Monaco montre qu'on a du caractère et de l'orgueil. On est dans le coup, mais je ne peux pas être content à 100%, car on est à 5 points du leader et on a perdu trop de points de manière stupide.
Avant les fêtes de Noël, l'OM devra faire le métier également en Coupe de France. Ce sera dimanche à Bourg-en-Bresse.
À retenir également les victoires de Lille et de Lyon, 4e et 5e du classement ce matin.
C'était le journal de Thibaut Texer, 7h08. On part sur le terrain, vous êtes nombreux à nous appeler pour réagir à cette crise agricole. Et c'est notamment le cas de Christophe qui nous appelle de l'Hérault. Bonjour Christophe.
Bonjour Apolline.
Vous-même vigneron et éleveur, éleveur de quel genre de bêtes?
Des cochons.
Des cochons, donc vous n'êtes pas à ce stade concerné par la question immédiate des bovins. Est-ce que vous soutenez vos collègues? Est-ce que vous soutenez le mouvement agricole?
Oui, j'étais d'ailleurs en Ariège les trois jours et j'ai fait partie des gazés, oui.
Des gazés, comme vous dites. Alors, j'ai toujours du mal avec cette expression que je trouve qui est très... Enfin, voilà, qu'on remet un peu à toutes les sauces. Mais ça veut dire que vous vous êtes retrouvé pris dans des affrontements avec les forces de l'ordre?
Affrontement, non. Hein, il faut arrêter ce terme. On a juste essayé de retenir les forces de l'ordre. Mais bon, voilà, on a reculé, je vais dire, pacifiquement. Les seuls qui ont pu leur jeter des projectiles, c'était l'ultra-gauche ou les Black Box, reconnus par les CRS.
Nous, on a fait que... Qui était là aussi?
Ouais, il y avait une vingtaine d'éléments, oui.
Qui, eux, n'avaient rien à voir avec vous? Vous avez l'impression qu'ils ont profité de votre situation?
Oui, bien entendu, bien entendu. Mais nous, aujourd'hui, le monde agricole se soulève. Il y avait la Confédération paysanne, il y avait les ultras de Jérôme Bail, il y avait la coordination rurale dont je fais partie. On va faire une action demain conjointement avec la coordination, avec la Confédération paysanne dans l'Hérault. Aujourd'hui, c'est un ras-le-bol agricole. C'est au-delà de la DNC.
Pour vous, c'est même pas la question immédiate de vaccin, pas vaccin. C'est une colère qui gronde, qui ne s'est en réalité jamais vraiment arrêtée.
C'est-à-dire qu'elle a démarré il y a deux ans. Par un tour de passe-passe, on nous a fait croire des choses. Voilà. Bon, là, ce coup-ci, c'est un général.
Quand vous dites demain, il y aura des actions, où, comment, sous quelle forme?
Je peux pas vous les dire à la radio, désolé.
Mais appelez-nous demain matin pour nous dire. Ce qui est sûr, c'est que vous êtes déterminé, vous n'êtes pas du tout prêt à lâcher la bataille.
Ah non, c'est pour sauver l'arboriculture, la céréale, la viticulture, l'élevage, c'est un tout.
Et il y a aussi, on le sent bien, une forme de division au sein même du monde syndical agricole. Vous faisiez référence à l'instant à la coordination rurale. Aujourd'hui, la FNSEA, à l'inverse, soutient la stratégie telle qu'elle est faite de vaccination et d'abattage ponctuel des troupeaux. Cette division, on l'entend, votre parole ce matin et à 7h40, tout à l'heure, la porte-parole du syndicat de la FNSEA qui sera en direct avec nous sur RMC. On veut tous vous entendre. Vous n'hésitez pas à vous nous appeler au 3216. Il est 7h11.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Et c'est une info RMC que l'on vous dévoile ce matin. Un proche de Mohamed Amra a renseigné les enquêteurs pendant sa cavale. Ce témoin, sous X, a permis d'aider à la capture du criminel français, un temps considéré comme l'homme le plus recherché de France. Bonjour Pierre Bazin.
Bonjour Apolline.
Reporter du service police-justice d'RMC. C'est vous qui nous révélez ce témoignage que l'on ignorait jusqu'à présent. Et Mathieu, beaucoup de messages ce matin au standard. On va parler de toute autre chose parce que sur l'application RMC notamment, les réactions, c'est aussi au choix de la rédaction sur Pronote.
Oui, le choix de la rédaction, on a parlé de ce collège qui a décidé de se passer de Pronote pour ne pas que les élèves passent trop de temps sur leur smartphone. C'est une des clés du débat sur les écrans. Est-ce que c'est de la faute de l'école si nos enfants sont sur les écrans? Alors, ça a fait débat, mais on a beaucoup de messages pour responsabiliser les parents. Je commence par Greg, hein. Si les adultes étaient moins sur leur portable, pour montrer l'exemple, je suis serveur quand je vois les parents à table scotchés sur le téléphone. C'est pire que les gamins. J'ai cet autre message qui nous dit, c'est vrai que c'est trop dur de répondre à un enfant qui vous dit, je peux pas faire mes devoirs si tu me supprimes mon téléphone, mais on n'est pas capable, nous, en tant qu'adultes, d'aller sur Pronote pour lui fournir les devoirs qu'il a à faire. Ce chantage, c'est ridicule, c'est faux à quel point nous, adultes, on se déresponsabilise. Voilà ce que dit ce message sur le WhatsApp RMC 0612 424 424. J'ai Pierre qui nous dit, même les adultes ont du mal à gérer leurs priorités sur le téléphone. Combien de fois dans la journée il nous arrive de prendre notre téléphone pour une action bien précise et de se retrouver à scroller par ailleurs sur un réseau social?
À tout de suite Mathieu et puis Pierre Bazin avec cette exclusivité RMC sur la cavale de Mohamed Amra. À tout de suite.
RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
7h14 sur RMC et à la télé sur RMC Story. Ses habitudes, des confirmations, mais aussi des renseignements sur sa vie passée. C'est une information RMC. Un témoin sous X a renseigné les enquêteurs pendant la cavale de Mohamed Amra. Des informations précieuses pour cette longue enquête qui a permis la capture en février dernier du criminel le plus recherché de France. Après son évasion spectaculaire et tragique en mai 2024 au péage d'Incarville, qui avait tué deux agents pénitentiaires. Bonjour Pierre Bazin.
Bonjour Apolline.
Vous êtes
bonjour
reporter du service police-justice d'RMC et avec Julie Brault, c'est vous qui nous révélez ce témoignage. Grâce à lui, on apprend que Mohamed Amra a passé une bonne partie de sa cavale en France en réalité et dans sa région d'origine.
Oui, ce qui est d'ailleurs particulièrement intéressant selon les enquêteurs avec ce témoin, c'est qu'il a vu Mohamed Amra au cours de sa cavale. Souvenez-vous, Amra est interpellé en février 2025 et c'est deux mois avant son interpellation en décembre qu'un homme vient livrer des informations importantes aux enquêteurs. À ce moment-là, plusieurs sources nous indiquent que les policiers cherchent autour de l'Espagne, autour de la région parisienne, mais aussi en Normandie, dans la région natale de Mohamed Amra. Et ce témoignage sous X est important puisqu'il va expliquer aux enquêteurs qu'à l'été 2024, deux mois après le début de la cavale de Mohamed Amra, il l'a vu à Rouen. Le fugitif le plus recherché de France est alors à l'entrée d'un kebab en train de discuter avec un homme d'une quarantaine d'années. Et même si selon ce témoin, le fugitif Mohamed Amra a grossi du visage, il est sûr de lui à 100% puisqu'il le connaît, il connaît Mohamed Amra, il n'a aucun doute. Et selon une source proche du dossier, il nous glisse même que l'interlocuteur est convaincu que Lamouche est venu donner des instructions à quelqu'un qui fait tourner un peu son business, on va dire, pendant sa cavale.
C'est un témoignage exceptionnel et rare.
Oui, c'est une de nos sources nous précise que c'est un témoignage qu'ils n'ont pas l'occasion d'avoir très souvent dans ce type d'enquête ultra sensible, puisqu'on le sait, ceux qui collaborent avec la police risquent gros, ils prennent de gros risques pour eux, pour leurs proches, alors quand les informations sont très utiles à l'enquête et qu'il est impérieux de protéger les informateurs, il existe une procédure exceptionnelle qui s'appelle le témoignage sous X. C'est décidé par un juge d'instruction et un juge des libertés de la détention, et grâce à cette procédure, le nom du témoin n'apparaîtra jamais dans le dossier d'instruction. D'autant que dans ce dossier, plusieurs sources nous indiquent qu'il s'agit d'un proche, voire d'un très proche de Mohamed Amra.
Parce qu'effectivement, les informations qu'ont livrées ce témoin laissent montrer que seul un très proche, au fond, de Mohamed Amra peut avoir ce genre d'information.
Oui, puisque selon plusieurs de nos sources, ce témoin a pu décrire l'environnement criminel de la mouche, expliquer son ascension dans la criminalité organisée. Il aurait listé les noms de complices potentiels. Aujourd'hui, 4 d'entre eux sont mis en examen. Et puis, ce qui est surprenant aussi, c'est que selon nos informations, l'interlocuteur des policiers aurait été en mesure de détailler l'environnement personnel de l'ancien fugitif, les différentes relations entre Amra, sa sœur, Amra et sa mère, mais aussi ses différentes compagnes, les officiels, les officieuses, celles qui auraient pu l'aider. Le témoin connaît même, selon une source proche de l'enquête, le surnom que la mouche donne à son fils, ou encore les habitudes de vie de Mohamed Amra.
Et ce témoignage, il a été clé pour l'enquête, évidemment.
Ce qui est certain, c'est qu'avant ce témoignage, les enquêteurs avaient déjà plusieurs pistes, ils avaient beaucoup travaillé, mais ce témoin est venu confirmer plusieurs éléments très importants, notamment que 2 mois avant que Mohamed Amra parte en Roumanie, il était encore en France, à Évreux notamment, où il aurait acheté de la drogue. L'enquête démontrera que ce témoin ne s'est pas trompé.
Mohamed Amra est aujourd'hui l'un des détenus les plus surveillés de France.
Oui, il est incarcéré à Condé-sur-Sarthe, dans l'une des prisons de haute sécurité créées justement après son évasion par Gérald Darmanin. Au total, il y a plus d'une quarantaine mises en examen dans ce dossier. Certaines personnes sont soupçonnées d'être des membres du commando d'Incarville ou d'autres qui ont participé à la logistique qui a permis la cavale de Mohamed Amra et de ses complices.
Merci Pierre Bazin. Pierre Bazin, reporter au service police-justice d'RMC. Merci aussi à Julie Brault, avec qui vous avez donc recueilli ces informations. À retrouver en longueur d'ailleurs sur le site internet d'RMC. Il est 7h19 et pendant ce temps-là, c'est l'historien d'Apolline Matin qui est rentré dans ce studio. Bonjour Arthur Chevalier.
Bonjour Apolline.
Arthur, ce week-end sur France 2, Jordan Bardella a annoncé soutenir la réouverture des maisons closes, des lieux de prostitution vieux comme le monde.
Oui, et la France a même longtemps été très connue pour ces maisons closes, hein. Et chez nous, c'est Napoléon qui les a légalisées, figurez-vous.
On se retrouve dans 60 secondes exactement sur RMC, 7h19, à tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
Il est 7h20 et vous êtes bien sur RMC et RMC Story. On va remonter le temps comme chaque matin avec Arthur Chevalier. Bonjour Arthur.
Bonjour Apolline.
Arthur, ce week-end, Jordan Bardella s'est dit favorable à la réouverture des maisons closes. Le président du RN qui soutient donc la proposition du député Jean-Philippe Tanguy. Cette question des maisons closes est en train de se transformer en véritable débat national.
Oui, d'un côté, il y a ceux qui sont pour, hein, comme Jordan Bardella. Ils pensent que c'est une question de sécurité, que ça permet d'encadrer la prostitution et évidemment de protéger les prostituées. De l'autre, il y a ceux qui sont contre. Rouvrir les maisons closes, ça serait un retour en arrière et une insulte à toutes les femmes.
Alors d'abord, pour remettre les choses dans leur contexte, c'est interdit depuis quand les maisons closes en France ?
Alors, c'est interdit depuis 1946, donc c'est assez récent, hein, mais on a passé beaucoup plus de temps avec les maisons closes que sans, puisque c'est aussi vieux que la prostitution. Dans l'Antiquité, il y avait déjà des maisons closes, et il en reste quelque chose aujourd'hui. Est-ce que vous savez d'où vient le mot lupanar, Apolline ?
Non.
Alors, lupanar, ça vient de lupa. Lupa, c'est du latin. Et à Rome, une lupa, ça désignait une prostituée. Voilà comment on est arrivé à lupanar.
Lupanar, donc. Et en France, il y en a toujours eu ?
Alors, de façon plus ou moins encadrée, de façon aussi plus ou moins légale. Mais oui, au Moyen-Âge, il y avait des maisons closes. Mais alors, attention, c'était évidemment très mal vu. Ça a toujours été dans des endroits un peu cachés, à l'écart des lieux de vie. Et ces maisons devaient se signaler par une lumière rouge. Voilà pourquoi le rouge va devenir la couleur, entre guillemets, de la prostitution, avec les quartiers rouges, comme celui d'Amsterdam, par exemple.
Alors, c'est Napoléon qui légalise les maisons closes.
Oui, c'est Napoléon. Alors, attention, c'était une question d'ordre et de santé publique. Le but, c'était d'éviter la transmission des maladies et aussi, il faut bien le dire, de cacher les prostituées. Mais l'âge d'or des maisons closes, c'est plus tard. C'est dans la deuxième moitié du 19e siècle, sous la Troisième République, Paris était considéré comme la capitale du tourisme sexuel en Europe.
Donc on ne cachait plus les maisons closes.
Alors en tout cas, pas toutes. Hein. À Paris, il y avait des maisons closes pour la très haute société, hein, y compris dans des quartiers chics. et l'établissement le plus luxueux de la capitale, ça s'appelait le Chabanais. Le Chabanais, un endroit archi-select. Les clients, c'était que des ministres, des diplomates, des artistes très en vue. Un des habitués, c'était même le futur roi d'Angleterre, Édouard VII. Il avait carrément sa chambre à l'année. Passer au Chabanais, ça faisait partie des réceptions officielles. Hein. Vous dîniez à l'Élysée et après, hop, au bordel. C'était donc aussi un endroit où on faisait des affaires pour les puissants.
Enfin, j'imagine que toutes les maisons closes n'étaient pas aussi chic. Hein.
Mais non, bien sûr, c'est tout le problème. L'écrasante majorité, c'était des endroits sordides, dangereux, où les femmes étaient exploitées et surtout très loin d'être en sécurité. Hein. Les filles devaient parfois faire plus de 70 passes par jour, monstrueux. Donc la réouverture, pourquoi pas, mais enfin c'est quand même loin d'être la solution à tous les problèmes. En tout cas, ça n'a rien d'une évidence, et si ça se fait, il faudra les encadrer très strictement.
Merci Arthur Chevalier, l'historien d'Apolline Matin, 7h23, Arnaud Demange.
RMC.
Demange Pirate, le face-à-face.
Et bonjour.
Salut Arnaud, bonjour. Dans le face-à-face tout à l'heure sur RMC et BFM TV, je reçois la députée européenne Marion Maréchal.
Oui, Marion Maréchal qui est un peu le faux-d'elle de l'extrême droite. Hein, c'est celle qui était à la mode avant, mais maintenant les électeurs, ils préfèrent les jeunes Jordan Bardella et Sarah Knafo. À 36 ans, Marion, elle est déjà obsolète. Même DiCaprio, il trouve ça abusé quand même. Oh. Alors Marion Maréchal qui a rencontré le pape Léon XIV, le jour de son anniversaire, c'est quand même classe. Hein. Moi, le climax de mes anniversaires, c'est quand je voyais mon nom défiler à toute vitesse dans le générique du Club Dorothée. Il fallait cligner des yeux et pas se louper. Et alors, elle a écouté le pape faire un discours sur les petits, les pauvres, ceux qui souffrent, etc. Elle a écouté, puis elle a remis au pape une charte en 15 points, rédigée par ses eurodéputés, pour bien expliquer que non, l'Europe chrétienne, ça veut surtout dire une Europe avec des chrétiens dedans. Voilà, c'est la façon diplomatique de traiter le pape de sale gauchiste immigrationniste qui va pas nous les briser longtemps avec ses histoires d'accueil de migrants, de tolérance envers les goudous à moustache, etc. etc. Autre dossier ce matin, les bons sondages de Jordan Bardella, qui s'est quand même pris les pieds dans le tapis à quelle époque samedi soir, vous l'avez vu ? Il y avait une séquence, il y avait Roselyne Bachelot à côté de lui. Léa Salamé montrait des photos de personnalités en demandant si vous aviez une question à lui poser. Vous connaissez ce procédé-là. Donc, elle montre une photo de Sarkozy, Bardella répond.
Où est-ce qu'il trouve toute cette énergie ?
Devant Trump, Bardella répond.
Où est-ce qu'il trouve toute cette énergie ?
Et donc, évidemment, évidemment, devant Poutine, c'est Bachelot qui le vanne, photo.
Où trouve-t-il toute cette énergie ?
Éclat de rire général, parce que vraiment, c'est une réponse d'adolescente en chaleur devant les To Be Free, quoi. Bardella face à Trump, c'est... Vous l'imaginez en Russie, Bardella en vrai, face à Trump et à Poutine à une réunion sur l'Ukraine, il va revenir. Écoutez, j'ai été très ferme avec le président Trump et le président Poutine. Et eux aussi ont été très fermes, mais plus quoi, ils dégagent une énergie, un charisme. Moi j'étais super content d'être là, de les voir en vrai quoi, parce que Poutine vraiment, oh, tu te dis en vrai, pff. Quand il m'a demandé, je vais prendre la Moldavie, qu'est-ce que tu veux faire ? C'est une sorte de Thibaut Inchep qui aurait lu des livres, il est incroyable, impressionnant. Quand il m'a demandé Strasbourg, j'ai dit mais vas-y, prends-le, de toute façon j'y vais jamais au Parlement européen, je m'en fous, je peux récupérer. Enfin, vous reviendrez avec Marion Maréchal sur la colère des éleveurs. Alors elle connaît les problématiques puisque sa tante est éleveuse de chats dans les Hauts-de-Seine, elle sait.
Tout voilà. À fait, bien sûr.
Et elle est contre l'abattage du troupeau en cas de bête malade. Et ça se comprend. Quand tu te souviens du nombre de brebis galeuses au RN aux dernières législatives, elle a aucune envie d'être euthanasiée à cause d'eux. On n'abat pas tout le troupeau. Allez, rendez-vous avec Marion Maréchal à 8h30. Elle a une énergie, cette fille. Une énergie.
Arnaud Demange, je vous retrouve évidemment en direct à 8h15 tout à l'heure, mais c'est déjà l'heure. Oui, c'est l'heure. Oui, c'est l'heure de gagner, de gagner. On vous couvre de cadeaux. Vous allez pouvoir remporter ce matin des produits high-tech. iPhone 17, télé QLED, AirPod Max, montre connectée, MacBook Air, c'est énorme. Restez bien connectés et surtout un seul chemin. Vous envoyez Noël au 732-16. Noël au 732-16 pour gagner. Le gagnant sera donc en direct avec moi à 8h20 pour ouvrir le calendrier de l'Avent. Donc bonne chance à tous. Dans un instant, la météo et le journal de 7h30. Juste après le journal, nous serons en direct avec l'un des proches de Dan El-Kayam. C'est ce Français juif tué hier dans l'attentat antisémite en Australie. Stupeur et immense tristesse de ses proches en pleine fête de Hanouka. Et à 7h40, l'invité d'Apolline Matin, c'est le porte-parole du principal syndicat agricole, la FNSEA. Faut-il continuer à abattre l'ensemble des troupeaux en cas de dermatose nodulaire ? Le monde agricole se déchire, le gouvernement ne va pas dévier de sa stratégie malgré la colère des agriculteurs. Les blocages encore dans de nombreux points en France ce matin, on en parle au 32-16 aussi avec vos témoignages et vos réactions. Vous nous appelez pour le standard d'RMC. Il est 7h27.
RMC, Apolline Matin.
Dans une poignée de secondes, il sera 7h30, le journal d'Élise Dangean. Bonjour Élise.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Les vacances ont déjà quasiment commencé au collège Champollion de Dijon, mais vous allez l'entendre, ça ne fait pas si plaisir que ça aux élèves dont l'établissement a été incendié, probablement par des narcotrafiquants. Face à la colère des agriculteurs qui se battent contre l'abattage de leurs vaches, les vétérinaires en première ligne, leurs craintes et leur incompréhension dans ce journal. Et puis la vidéo a déjà fait le tour du monde, celle du père de famille qui a désarmé l'un des terroristes de Sydney en Australie, sauvant des dizaines de vies.
Les grilles du collège Champollion à Dijon ne rouvriront pas ce matin.
Et pour cause, l'établissement a été ravagé par les flammes dans la nuit de vendredi à samedi. Il ne pourra pas rouvrir avant la prochaine rentrée de septembre, tant les travaux s'annoncent colossaux. Les 490 élèves auront cours à distance à partir de jeudi. Pour l'heure, c'est bien la piste criminelle qui est envisagée. Et selon le préfet de Côte d'Or, cela pourrait bien avoir un lien avec le narco-banditisme. Pas rassurant pour ces parents d'élèves rencontrés par Caroline Renaud pour RMC.
Des murs noircis par les flammes, des ordinateurs en cendres et des plafonds fondus. En voyant les photos des dégâts du collège de sa fille, Nadia a du mal à y croire.
Brûler un endroit symbole de l'éducation, c'est d'une violence inouïe. Les enseignants, les élèves n'y sont pour rien.
Même émotion chez Aziza, mère de deux enfants en 5e et 3e.
Je n'ai les larmes aux yeux. C'est un désespoir, c'est d'une tristesse, c'est de la colère.
Elle est aussi représentante de parents d'élèves et s'inquiète pour les 490 collégiens de l'établissement.
Qu'est-ce que vont devenir nos enfants ? L'étape psychologique de nos enfants après cet incendie.
Dès ce matin, deux cellules d'écoute accueilleront les élèves, mais aussi le personnel éducatif, car la piste du narcotrafic, privilégiée par le procureur de la République de Dijon, alarme plusieurs professeurs comme François.
Et là, on vient de s'attaquer au bâtiment, parce que la prochaine étape, ça ne sera pas agression physique sur le personnel de l'éducation nationale.
Les cours reprendront à distance dès jeudi et jusqu'aux vacances de Noël. L'organisation à partir de janvier, elle, reste à déterminer.
Et notez que les ministres de l'Éducation et de l'Intérieur se rendront sur place aujourd'hui. Annie Genevard, elle, se rend à Toulouse ce matin. La ministre de l'Agriculture va tenter d'apaiser la colère des éleveurs qui s'opposent à l'abattage généralisé de leurs vaches en cas de contamination à la dermatose nodulaire. Elle lancera la campagne de vaccination destinée à endiguer la propagation de la maladie avec en première ligne les vétérinaires sur le pont et parfois ciblés par les agriculteurs. Une colère qu'ils comprennent mais qu'ils ne digèrent pas, Marion Gauthier.
Beaucoup gardent le silence. Les menaces se sont amplifiées sur les réseaux sociaux.
Et on craint qu'un tel ou un tel soit tout d'un coup nommé.
Raconte Frédéric Decante, le secrétaire de l'Ordre des vétérinaires d'Occitanie, témoigne de l'incompréhension dans sa région.
Comment être fustigé, comment recevoir de la terre sur les voitures, comment être arrivé avec ses gendarmes. Quand on est prêt comme ça, nuit et jour à partir pour aller aider, pour être des personnels de soins. C'est insupportable, cette violence.
Des soignants proches des agriculteurs et qui redoutent les abattages, insiste ému le docteur Alexandre Dimberton en Bourgogne-Franche-Comté.
C'est quelque chose qu'on n'aime pas faire, mais c'est quelque chose qu'on fait pour l'intérêt de nos éleveurs. Et ce qui me blesse, c'est que des éleveurs doutent de ça. Ces opérations-là qu'on fait, on les fait pour la santé globale de tout le monde, pour économiser, entre guillemets, des vies à des animaux et permettre aux éleveurs voisins de ne pas être contaminés.
Il rappelle qu'en Savoie et en Haute-Savoie, l'abattage des troupeaux infectés et la vaccination ont permis d'éradiquer l'épidémie de dermatose nodulaire.
Et appelez-nous pour témoigner, que vous soyez agriculteur vous-même ou que vous les souteniez. Dites-nous aussi également si vous voyez des blocages autour de chez vous. On vous attend au 32-16 et sur le WhatsApp de l'émission 0612 424 424.
Il est 7h33 sur RMC. En Australie, le bilan s'est alourdi après l'attentat antisémite qui a eu lieu à Sydney hier en pleine fête de Hanouka. 15 morts, dont un jeune Français de 27 ans et une quarantaine de blessés. Les deux assaillants, un père et son fils, ont été pour l'un abattus, pour l'autre blessés. Mais derrière l'horreur de ce drame, il y a un homme qui a redonné espoir au monde entier par son courage. C'est lui qui s'est interposé auprès de l'un des tireurs. Il s'appelle Ahmed et son acte héroïque a fait le tour du monde, Lou Garnier.
Sur une vidéo amateur, on le voit se jeter sur l'un des deux assaillants par derrière. Après quelques instants de lutte, il réussit à le désarmer. Il le tient en joue et l'assaillant recule. Une chaîne de télévision australienne l'a identifié. Il s'agit d'un père de famille de 43 ans, propriétaire d'un magasin de fruits. Selon son cousin, il a été blessé à deux reprises pendant l'altercation, mais ses jours ne seraient pas en danger.
Il a reçu deux balles, l'une dans son bras, l'autre dans sa main. C'est un héros. À 100%, c'est un héros.
Un acte de bravoure salué à travers tout le pays. Chris Minns, c'est le chef du gouvernement de la province de Sydney.
Je pense qu'il faut se rappeler que dans tout cet enfer, dans toute cette tristesse, il y a toujours des Australiens courageux prêts à risquer leur vie pour aider des inconnus.
Son courage a permis d'éviter de nombreuses victimes supplémentaires, selon les autorités locales.
L'appel de la dernière chance de la mère de Christophe Glaise, ce journaliste français incarcéré en Algérie et condamné à 7 ans de prison ferme en appel pour apologie du terrorisme. Sylvie Godard a adressé au président algérien une demande de grâce pour son fils qui va par ailleurs se pourvoir en cassation. Il est 7h35 sur RMC et les handballeuses françaises repartent des mondiaux aux Pays-Bas médaillées de bronze après leur victoire 33-31 arrachée après prolongation contre les Néerlandaises qui jouaient donc à domicile. Une joie immense et un beau cadeau d'anniversaire pour Fatou Karamoko, dont c'était la toute première compétition en bleu.
C'est incroyable, franchement. Les émotions que j'ai vécues ce soir, c'est waouh. Je sais pas quoi dire, je suis juste hyper contente qu'on ait gagné cette putain de médaille parce qu'on a vraiment bossé tout ensemble. Le travail qu'on a fait, il a payé quoi. Et là, elles étaient chez elles avec leur public, etc. Donc elles allaient faire le show et tout. Fallait les éteindre et c'est ce qu'on a réussi à faire. C'est mon anniversaire, donc j'ai fêté mes 20 ans et il y a la breloque autour du cou, donc ça fait plaisir. Voilà, un meilleur cadeau, j'en parlerai à mes gosses.
En football, l'OM conserve sa troisième place grâce à sa victoire 1-0 face à Monaco hier soir avec un but tardif inscrit par Mason Greenwood à 10 minutes de la fin. Lens de son côté conserve sa place de leader devant le Paris Saint-Germain.
Et puis le quintet, 13h55 sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer.
Et voici le pronostic de la Dream Team des courses RMC. Le favori aujourd'hui, c'est le numéro 4, Sign of Stars. L'outsider, c'est le 7, Kamakura One.
C'était le journal d'Élise Dangean. Il est 7h36 et vous en parliez à l'instant dans votre journal, Élise. Parmi les victimes de l'attentat antisémite en Australie, un Français, Dan El-Khayyam. Bonjour Pascal Elbaz.
Bonjour.
Pascal Elbaz, vous êtes l'entraîneur du Maccabi France, une équipe de foot de région parisienne. Vous connaissiez bien Dan, vous l'aviez même entraîné. Parfois, il était parti en Australie il y a 2 ans comme ingénieur. J'imagine le choc ce matin, la tristesse. Parlez-nous de Dan El-Khayyam.
Si j'ai accepté de faire cette interview, c'est vraiment pour lui, pour lui rendre hommage et surtout pour pas qu'on l'oublie parce que c'était un être exceptionnel, un garçon d'une gentillesse rare, très discret, mais comme vous pourrez le voir sur toutes ces photos, un sourire magnifique, exceptionnel et une bonté d'âme que j'ai rarement vue.
Et effectivement, les photos que les proches nous ont données, et je recommande à ceux qui nous écoutent à la radio d'allumer la télé, RMC Story, Canal 23, pour voir ce visage, effectivement, rayonnant. Comment on vit ça dans la communauté juive aussi en France, ce choc immense, cet attentat qui a ciblé des juifs, dont votre ami?
Comme pour tous les autres attentats, ça reste une tragédie. C'est vraiment terrible, c'est horrible. Franchement, il n'y a pas de mots pour qualifier ça. C'est des gens c'est des jeunes ou des moins jeunes qui allaient juste à une fête. Pour fêter Hanouka. Hier, c'était le premier jour de Hanouka et c'est vraiment terrible de voir ce qui peut se passer quand les gens y viennent pour communier, pour fêter, pour être heureux. Ils se retrouvent en plein milieu d'un attentat et à partir du jour au lendemain. Donc, c'est terrible pour nous, c'est terrible pour la famille, c'est terrible pour tous les joueurs du Maccabi France, pour tous les athlètes. Nous, pour tous ses amis, ça a été un vrai choc parce que nous, on savait que depuis 2 ans, il était là-bas. On était heureux pour lui parce que on voyait qu'il s'épanouissait en Australie. Et on devait faire une compétition avec lui en juin. On était très contents qu'il participe avec nous. Et malheureusement, la vie en a voulu autrement et c'est terrible. Depuis hier, on est tous très tristes.
Vous vous appelez les uns les autres, vous oui, partagez. Oui. Il y a aussi la question de l'antisémitisme en France. Est-ce que ça réveille aussi cette question-là? Est-ce qu'il y a des moments où vous vous sentez serein?
Quand on est juif en France, c'est un peu plus compliqué de se sentir totalement serein. On sait tous qu'on doit tous faire attention et que maintenant c'est comme ça. C'est des données qui sont maintenant ancrées en nous. On doit vivre avec ça. Voilà. Malheureusement, c'est comme ça la vie aujourd'hui et c'est dommage que, quelles que soient les religions, tout le monde devrait pouvoir vivre en paix et vivre sa religion comme il l'entend, sans avoir à se préoccuper de ce qui peut se passer. Mais malheureusement, ça plaît pas à tout le monde. C'est comme ça. Il faut vivre avec. On apprend juste à vivre avec.
On apprend à vivre avec. Pascal Elbaz, merci de votre témoignage ce matin. Pascal Elbaz, ancien entraîneur donc de Dan El Kayam, victime française à nouveau de ce terrorisme, puisqu'il a été tué dans cette attaque terroriste antisémite hier en Australie. Merci de votre témoignage. Il est 7h40.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Et on va avoir avec nous Emmanuel dans un instant, qui nous appelle de Maché en Vendée. Bonjour Emmanuel.
Oui, bonjour.
Emmanuel, vous êtes éleveur bovin. Vos vaches sont vaches laitières et vaches à viande. Oui, la question ça. Aujourd'hui qui se pose effectivement de cette colère agricole et d'un monde agricole qui est à la fois en colère mais qui est aussi divisé. On va revenir dans un instant avec vous, mais aussi avec Johan Barbe. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le porte-parole de la FNSEA, le principal syndicat agricole. Vous soutenez le principe de l'abattage préventif en cas de dermatose nodulaire. Vous nous expliquerez pourquoi dans un instant. Mais d'abord, Emmanuel, votre témoignage à vous. Vous en êtes où aujourd'hui? Est-ce que vous vous sentez soutenu?
Soutenu, ça devient compliqué de comprendre en fait les positions syndicales, quoi. Parce que moi, je suis syndiqué FDSEA depuis longtemps.
Ouais.
J'étais même impliqué dans le réseau au niveau local.
Ouais.
Et aujourd'hui, j'ai du mal à comprendre, quoi. Parce qu'en fait, j'arrive pas à comprendre qu'on n'arrive pas à s'unir ensemble, quoi. Quand on voit les images de jeudi soir, les agriculteurs ont été
jeudi soir pris en Ariège, où effectivement les agriculteurs ont tenté de faire une sorte de blocage devant une ferme dont le bétail allait être abattu.
Exactement. Et moi, c'est des images qui choquent. Enfin, je sais pas. Moi, ce week-end, je sais pas. C'est la personne que vous avez avec vous de la FNSEA. Je sais pas si elle a vu des amis ou autres. Mais moi, tous mes amis ont été choqués par ces images. Hein, et je comprends pas qu'aujourd'hui le syndicat majoritaire ne peut pas s'entendre là-dessus, sachant qu'il y a des départements comme la FDSEA Haute-Garonne par exemple qui elle soutient le non-abattage. Enfin, il y a eu des communiqués qui sont apparus qu'on a vu. Alors à moins que ce soit défaut, hein, peut-être, parce que moi je suis que Vendéen, je suis pas là-bas. Hein. Mais il y a des choses qui sont pas claires. Alors entre eux, ils arrivent pas à se mettre d'accord entre dans les bases de la FDSEA, avec la tête de la FDSEA, on a l'impression de ne pas être écouté.
On entend parfaitement votre désarroi ce matin, Emmanuel, et on le sent bien, il y a aujourd'hui une grande inquiétude et effectivement une crainte. Comment comprendre, justement, Johan Barbe, porte-parole de la FNSEA, vous répond dans un instant, il est dans ce studio, à tout de suite.
RMC, jusqu'à 9h, Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h44 sur RMC et sur RMC Story Canal 23. Est-ce qu'on en fait trop dans la lutte contre la dermatose nodulaire ou au contraire pas assez? Un monde agricole à la fois en colère et divisé face à la dermatose nodulaire, cette maladie qui touche les bovins et qui met le feu au monde agricole. Les blocages se poursuivent encore ce matin dans le sud-ouest, sur les autoroutes autour de Montpellier, Bordeaux, Toulouse. Bonjour Johan Barbe, vous êtes le porte-parole de la FNSEA, le principal syndicat agricole. On a d'abord besoin de comprendre ce qu'il se joue. Il y a cette épidémie de dermatose nodulaire contagieuse. Et puis, il y a la question du vaccin. Et puis, il y a la question de l'abattage. Abattage systématique des troupeaux, y compris des troupeaux pour certains vaccinés. Et cela sème une grande confusion, une colère, une détresse. Quelle est la position aujourd'hui de la FNSEA ?
Bonjour. Donc déjà, je voudrais rappeler qu'on est complètement sur le sujet à la FNSEA et en compassion avec tous les éleveurs qui sont touchés aujourd'hui, de loin ou de près. Rappelez que cette maladie est apparue un peu plus de 6 mois sur le territoire national, fin juin, où on la connaissait quasiment pas, alors qu'elle était déjà dans des traités avec des accords européens. Ça, c'est un premier point important. Rappelez qu'au mois de juin, quand nos collègues des Savoie ont découvert cette maladie, tout de suite, ils se sont rendus compte qu'il fallait agir et malheureusement, le dépeuplement était la meilleure solution pour aller vite. Aller vite contre une maladie qui aurait pu gagner tout le territoire très vite.
En Savoie, la maladie a été contrôlée. Alors au prix d'un abattage, comme vous dites, de certains troupeaux, mais elle a été contrôlée.
Elle a été contrôlée, mais pourquoi les Savoie ont fait ce choix? C'est parce que déjà, ils se sont tout de suite renseignés sur les avis scientifiques nationaux, étrangers, et surtout parce qu'on connaissait pas la maladie, donc il fallait aller vite. Et on s'est rendu compte que dans la plupart des pays où on n'avait pas fait le choix du développement, la maladie s'installait durablement. Et en France, on ne peut pas vivre avec cette maladie parce qu'il y a un trop gros risque économique sur nos exploitations. Et d'ailleurs, les éleveurs qui sont en détresse aujourd'hui ont autant un problème économique sur leur exploitation qu'un problème sanitaire. La plupart n'ont encore pas de problème sanitaire.
C'est d'ailleurs, au fond, ce que l'on pressent, c'est que la question de la dermatose n'est qu'une sorte d'étincelle qui remet le feu à une colère qui couvait.
Alors les étincelles étaient déjà là. Le premier qui a soufflé sur les étincelles, c'est le président Macron en annonçant la possibilité de signer un traité d'accord de libre-échange, notamment le Mercosur, qui impacterait l'élevage. Et aujourd'hui, on avait un élevage qui allait un peu mieux parce qu'on avait retrouvé des prix rémunérateurs. Derrière, on a ce problème, on va dire, sanitaire qu'on doit traiter à bras-le-corps. Et si la FNSEA, au niveau national, on pourrait sentir des distorsions avec notre base, c'est surtout qu'on déplore depuis des mois un manque d'information de la part du ministère de l'Agriculture pour informer l'ensemble des territoires sur le risque de
cette dermatose. Un mot sur ce que vous venez d'évoquer, c'est-à-dire le Mercosur, avant de revenir bien sûr à la question concrètement des blocages actuels dans le Sud-Ouest. Emmanuel Macron a dit hier, le compte n'y est pas à propos du Mercosur, et il demande un report de la signature du Mercosur. Est-ce qu'on peut lui faire confiance? Est-ce que vous lui faites confiance?
Alors sur la demande du report, on peut lui faire confiance. Par contre, sur le fait de ne pas signer demain ou après-demain, on peut déjà lui faire un peu moins confiance.
Vous êtes inquiet là-dessus?
On est très inquiet parce que il a quand même fait allusion au moment où il était au Brésil qu'il allait pouvoir le signer, même si il y avait encore quelques
points de blocage. Il y a quoi? Il y a un double discours?
On sent un double discours et surtout on sent une France affaiblie au sein de l'Union européenne pour peser. C'est vraiment là le problème en fait, parce que le couple franco-allemand qu'on a connu jusque-là ne fonctionne plus. Et donc l'Europe avance sans la France, et ça, c'est pas entendable.
Vous avez entendu le témoignage d'Emmanuel à l'instant, qui appelait de Vendée, et qui au fond, jusqu'à présent, était un des adhérents de votre syndicat, mais qui aujourd'hui semble perdu, parce qu'effectivement, il y a ces images tragiques et qui retournent le cœur de ces éleveurs qui se battent pour ne pas perdre leur troupeau. Et puis, il y a malgré tout des avis qui divergent. Certains disent, et c'était notamment l'un des rapports en 2016, au tout début de la maladie, que si le troupeau est vacciné, l'abattage partiel suffirait plutôt que l'abattage complet du troupeau. Quelles recommandations faut-il suivre?
Aujourd'hui, on s'appuie toujours sur les avis scientifiques. Effectivement, quand on parle de l'Ariège, aujourd'hui, on est sur des troupeaux non vaccinés. Donc ça veut dire que malheureusement, il faut faire comme dans les Savoies, il faut agir vite pour contenir la maladie et vacciner dans le même temps. Et j'appelle aussi tous mes collègues éleveurs, puisque je suis moi-même éleveur, à faire attention à tous les déplacements d'animaux, ces mouvements d'animaux qui peuvent faire le mouvement justement de cette maladie. On sait très bien que les moustiques qui sont responsables de véhiculer la maladie ne peuvent pas faire des sauts de 100 km. Donc quand la maladie fait 100 km de déplacement, c'est parce qu'on a déplacé
les animaux.
C'est ça. Et après, moi, je voudrais rappeler quand même que scientifiquement, effectivement, pour l'instant, on suit les scientifiques. Mais si les scientifiques vont plus vite et nous proposent d'autres méthodes, nous serons les premiers à les accueillir. Mais pour l'instant, ça reste l'avis scientifique européen et français unanime. D'ailleurs, les vétérinaires sont d'accord avec ça.
Les vétérinaires qu'on a entendus dans le reportage du journal de 7h30, qui sont au bord des larmes pour certains, disant qu'évidemment, c'est pour eux tragique de devoir procéder à ce geste de l'abattage, de l'euthanasie des bêtes. Mais eux-mêmes disent que ce qu'ils trouvent le plus dur, c'est d'être si mal compris par les agriculteurs. Il y a aussi cette question aujourd'hui d'un monde agricole divisé, d'un monde syndical agricole divisé. Vous étiez jusqu'à présent le premier syndicat, le resterez-vous? On sent bien que la colère, elle est aussi du côté de l'autre syndicat agricole, la coordination rurale.
Et après, je pense que c'est pas une bataille syndicale. Enfin, ceux qui en font une bataille syndicale, ils se trompent. On est sur un combat sanitaire. Et si à la FNSEA, justement, on renchérit pas sur cette bataille syndicale, c'est parce que justement, on veut traiter le problème sanitaire en premier, sortir les éleveurs de cette crise sanitaire, et après, nous ferons le combat syndical s'il doit y en avoir.
Il y a la colère sur le terrain en France, et puis il y a une autre colère, celle face au Mercosur que vous évoquiez à l'instant, avec notamment un rassemblement prévu jeudi à Bruxelles. Est-ce que vous y serez?
Forcément qu'on y sera, puisque c'est à l'appel de la FNSEA et du COPACOGECA, donc notre instance européenne, qu'on a organisé cette action de longue date. Ça veut dire que le problème de la PAC, le problème du Mercosur, c'est des problèmes qu'on traite à la FNSEA depuis longtemps. Mais par contre, effectivement, le sanitaire a pris le dessus parce que ça, il y a une recrudescence dans le sud. Et donc, on a besoin d'être présent. Mais on sera aussi à Bruxelles pour faire entendre notre voix et espérer, alors, la fin du Mercosur. Ça, c'est un grand espoir. Le deuxième point, c'est quand même, enfin, que l'Union européenne reconnaisse l'intérêt de la PAC pour les éleveurs et pour l'agriculture française. Et derrière, on a aussi des collègues viticulteurs qui sont vraiment en difficulté. Et si je pense que dans le Sud, ça démarre, c'est aussi qu'on n'a toujours pas traité cette crise viticole en France.
Merci beaucoup, Johan Barbe, d'être venu sur ce plateau répondre à ces questions autour de la colère agricole. Vous êtes le porte-parole de la FNSEA, le principal syndicat agricole. Il est 7h50 et dans un instant, c'est la voix de droite sur RMC. Louis Sarkozy, l'Australie qui se réveille après le pire attentat antisémite de son histoire. 15 morts en pleine fête juive de Hanouka, 15 morts dont un Français. Pour vous, Louis, notre pays, ici, est en plein déni de cette menace antisémite.
Oui, bonjour Apolline. La France aussi a son problème d'antisémitisme, mais il faut aussi le dire, la France est aussi une terre juive.
Et vous nous le dites dans un instant, il est 7h51 sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le bonus, Mathieu, juste avant de filer, retrouver la voix de droite, Louis Sarkozy. Mathieu, vous nous parlez du groupe britannique Coldplay qui dévoile son prochain projet.
Ah, ils s'arrêtent jamais, Coldplay, comme leur tournée mondiale Music of the Spheres, débutée en 2022 et qui bat tous les records. Des centaines de dates jouées, plus de 13 millions de spectateurs à travers le monde. Mais le chanteur Chris Martin a fait une annonce qui va captiver les fans. Lors d'un concert caritatif à Paris il y a quelques jours, Chris Martin a révélé que le groupe travaille actuellement sur son 11e album studio qui pourrait prendre la forme d'une comédie musicale. Une comédie musicale Coldplay, le livret aurait déjà été écrit avec le manager et le projet devrait voir le jour vers 2027. Révélation qui vient masquer aussi l'échec du dernier album. Une comédie musicale qui devrait précéder ce qui sera le dernier album du groupe, 12e et dernier album pour les 30 ans de carrière du groupe en 2028.
RMC, Apolline Matin,
voix de gauche,
voix de droite.
7h53 sur RMC et RMC Story. C'est la voix de droite ce matin, Louis Sarkozy. Bonjour Louis.
Bonjour.
15 morts, dont un Français hier en Australie dans un attentat terroriste antisémite. Emmanuel Macron a exprimé la solidarité de la nation à sa famille, au peuple australien. Mais pour vous aujourd'hui, on est quand même face à une forme de déni en France.
Oui, et ce déni est devenu justement un réflexe. Les Juifs représentent 0,6% de la population française. Pourtant, les actes antisémites constituent la majorité des faits antireligieux, 62% en 2024. Pire encore, on en vient à excuser l'antisémitisme au nom de l'anti-sionisme. On met sur le même plan l'Israélien et le Juif comme s'ils étaient tous comptables de la politique de Benjamin Netanyahou. La France insoumise en particulier est coupable de cette approximation dangereuse et profondément suspecte.
Vous pensez qu'on a refusé de voir monter le danger ?
Oui, parce que reconnaître la menace, Apolline, oblige à agir, et agir, ça peut déranger. On parle de 15 morts, des familles décimées, des enfants pris pour cible pendant une fête religieuse. On ne peut plus appeler cela autrement que ce que c'est, de la haine antisémite et du terrorisme. Il faut le dire clairement, la gazification du débat international alimente et légitime cette haine.
Le ministre de l'Intérieur, ici en France, a demandé au préfet une vigilance maximale, notamment à l'approche des fêtes de fin d'année, à la fois Hanouka côté juif, mais aussi Noël côté chrétien.
Et heureusement, mais il faut le dire clairement, Apolline, nos compatriotes juifs français sont traités différemment. Voilà, j'ai eu la chance de rencontrer l'an dernier à Jérusalem une trentaine d'entrepreneurs franco-israéliens. Tous avaient fui la France par peur pour leur communauté, par peur pour leurs enfants. La France échoue ici à son devoir. Les Juifs de France partent et nous en mourons à petit feu, économiquement, moralement, intellectuellement, culturellement.
C'est ce qu'on dit effectivement avant les drames, même si certains veulent minimiser.
Exactement, c'est toujours ce qu'on dit. On dit que ce sont des cas isolés, qu'il ne faut pas faire d'amalgame, qu'il faut rester calme. Et puis un jour, comme nous l'avons vu, il y a du sang sur le sable. Le problème, ce n'est pas l'émotion. Le problème, c'est l'habitude. Et on s'habitue ici à l'inacceptable.
Que faut-il faire ?
Alors d'abord, arrêtez de tourner avec les mots. L'antisémitisme n'est pas une opinion, c'est un délit. L'antisionisme, Apolline, aujourd'hui, doit être aussi considéré comme tel. Il n'existe qu'un seul État juif au monde. Il fait la taille d'un département français. Vouloir sa destruction, c'est antisémite. Vouloir chasser les Juifs d'Israël, c'est antisémite. Dire de la rivière à la mer, c'est antisémite. Il faut sanctionner lourdement, sans répit, sans pitié, sans excuse, sans relativisme, sans hiérarchie des haines. Attaquer les Juifs, c'est attaquer la République.
Pour vous, ce combat, il dépasse largement la seule communauté juive.
Mais bien évidemment, aujourd'hui, ce sont les Juifs. Hier, c'était d'autres. Et demain, qui ? L'histoire, le monde, ça commence souvent avec eux, mais ça ne finit jamais avec eux. Alors oui, Israël est leur terre ancestrale. Et je comprends mes compatriotes qui souhaitent y retourner. Mais je leur dis aussi, droit dans les yeux, que la France aussi est une terre juive.
Merci Louis Sarkozy, voix de droite d'RMC ce matin. Demain, à votre place, ce sera la voix de gauche, Cécile Duflot. Il est 7h56, on se retrouve dans un instant avec à la une du journal de 8h, ces blocages dans le sud-ouest. En attendant, la ministre de l'Agriculture qui se rendra sur place ce matin, elle est attendue à Toulouse. Et nous sommes déjà en direct d'un de ces points de blocage, ce sera dès le début du journal. Et puis la météo, doux mais perturbée dans le sud, attention. Et puis juste après le journal, il y aura Emmanuel Le Chypre qui est déjà à mes côtés. Emmanuel, les Européens se sont mis d'accord pour taxer les petits colis.
Oui, et ça n'est que le début de la taxation de ces petits colis.
Et ça va commencer le 1er juillet prochain. Ça commence très vite, vous nous le dites dans un instant. Et puis n'oubliez pas, si vous voulez être couvert de cadeaux ce matin encore, des cadeaux high-tech de folie, eh bien vous avez encore le temps de vous inscrire. Vous envoyez Noël au 732-16. Noël au 732-16. Et le gagnant sera en direct avec moi dans 20 minutes. 7h57, à tout de suite.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.